Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Les mecs que je veux ken.
Chères auditrices, chers auditeurs, comment allez-vous ? Moi, depuis le reconfinement, depuis que je peux plus jouer mon spectacle au point virgule, ni faire de plateau d'humour, et on va pas se mentir, il n'y a pas la masse de casting non plus en ce moment, ce podcast est devenu ma raison de vivre. Merci de l'écouter. Je suis très heureuse de partager avec vous cette discussion avec l'humoriste, acteur et musicien Redouane Arjan. Au tout début, je lui propose des macarons d'Arnaud Delmontel, l'artisan des petits bonheurs. Et j'en profite d'ailleurs pour dire ici que je cherche des sponsors. Ça peut être des marques de sextoys, mais aussi des pâtissiers, des chocolatiers. Alors vous verrez, j'enchaîne direct avec la lecture du poème pour Redouane. Au début de l'épisode, il n'y a pas de petit papotage cette fois-ci. C'est un début un peu abrupt. Et puis on rentre dans une discussion assez deep sur la famille et les doubles familles. Et plus tard, dans l'épisode, à la fin de l'épisode, c'est ma partie préférée. Voilà, je ne dis pas ça pour que vous écoutiez jusqu'au bout. Mais la toute fin est vraiment très rigolote. Et je reviendrai dessus en outro. Je m'excuse à l'avance de dire souvent dans l'épisode « et résultat » et de faire des « Je suis un peu timide au début, je me mets un peu en mode interview bienveillant et pas discussion d'égal à égal, mais ça se rattrape à la fin. Autre mea culpa, à un moment on parle de stand-up avec Redouane et je dis ne pas vouloir plaire à la ménagère de province et ses 4 enfants. Bon, c'est un gros cliché. Après, je sais que vous aimez bien mon parisianisme décomplexé, ça vous fait rire, mais j'aimerais prendre là une minute pour parler concrètement de mon rapport à la province. Déjà, j'ai été éduquée avec la peur de la campagne. Et mon père qui me disait « Nous, les Juifs, on est des rats des villes, pas des rats des champs ». Et parfois, mes parents disaient « Si Marine Le Pen arrive au pouvoir, on partira aux États-Unis à New York ». Donc toujours une ville, jamais des plaines, des montagnes. Et quand on voyageait, on visitait toujours des villes, avec un petit mépris clairement de la part de mes parents pour la nature. Comme si là où l'homme n'a pas laissé sa trace, c'est cool, c'est joli, mais c'est moins intéressant. C'est bien pour se balader, c'est bien la forêt, mais il faut une église à visiter. C'est bien la mer s'il y a un restaurant pour y manger des moules. C'est bien l'océan vu dans le reflet d'un verre de vin blanc. Et moi, j'adore voyager, visiter la France, partir avec ma metteur en scène, Adrienne Nollet. J'ai adoré faire le Festival d'Avignon, flyer. Mais là, récemment, j'ai joué au Festival du Mont-Blanc de Saint-Gervais et j'ai tellement bidé, les gars. Oh, c'était l'enfer. Voilà, je leur ai pas plu du tout. Bon, après, une semaine avant, gros carton à Bourg-les-Valences, à l'appart café. Donc, pas de généralité, voilà. Hein. Bon, et puis... Parfois à Paris aussi, hein, y a des gens chelous, faut pas... C'est bien de pas faire l'unanimité, et puis d'accepter qu'on peut pas plaire à tout le monde, et que, eh ben, bien sûr, on a le public qui nous ressemble, mais heureusement, des gens très différents se ressemblent. Voilà. Jouer me manque, vous parler me fait du bien. Je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode avec le merveilleux Redouane Arjan. Vas-y, je t'en prie.
Non, merci, je voulais...
T'es sûr ?
L'artisan des petits bonheurs.
Les macarons.
Il n'y a pas d'artisan de...
Des grands bonheurs.
De grands bonheurs ou...
Des vrais bonheurs, du vrai bonheur. Tiens, je vais te lire ton petit poème, Redouane.
Alors, tu sais que je n'ai pas écouté.
Bah, c'est... tant mieux. Résultat, tu vas être un peu surpris, peut-être. Redouane Arjan. La première fois que je rencontre Redouane, c'est un soir tard au Barbès Comedy Club. Je sais pas s'il est un peu ivre, mais il est très beau, très intense et dans ma tête, immédiatement, wow, attention, rouge, 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 alerte, alerte, no, 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 ça peut aller très vite. Moi, 27 ans, je couche direct avec Redouane, direct. Moi, 31 ans, je l'invite à mon podcast. Voilà, on va déceler ensemble. C'est quoi, pourquoi le charme que Redouane produit, pourquoi ? J'aurais tendance à parier, me connaissant, que c'est les plaies de Redouane qui, moi, m'attirent et peut-être une propension au drame, comme l'impression que Redouane ne peut vivre que des histoires d'amour et sexuelles incroyablement passionnelles et que son rapport à l'art est tout aussi extrême, brut et beau. J'ai faux ?
C'est... Il y a un moment dans le podcast où on se dit bonjour, on fait semblant de se dire bonjour, ou c'est tout de suite.
Non, c'est le podcast où on ne se dit pas bonjour.
D'accord. C'est Bon, déjà, j'ai 4 ans de retard sur notre relation sexuelle, visiblement. Ou alors,
ah ouais,
on
sérieux
a.
T'as
non, mais de 27 à 31. Ouais. C'est ça, si le calcul.
Ah oui, merde, ouais, t'arrives 4 ans trop tard. Ouais.
Mais effectivement, il s'en est passé des choses en 4 ans. Où étais-tu? Non. Je vais pas. Tu voudrais que je dise que je suis un mec torturé? Tu veux entendre ça?
Toi, tu penses que t'es un mec torturé ou pas?
Non, mais c'est ce que.
Non, mais
c'est,
au contraire, non, n'hésite pas à démentir, en fait.
Démentir.
Dire, Rosa, tu es folle, tu te fais des films.
Non, mais bah après, tu t'es perdu les perceptions des uns des autres. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on fait un métier où on peut pas faire comme si ce qu'on vivait dans le privé ne déteignait pas sur. Sur notre façon de créer, penser notre art. Donc oui, clairement, je pense que ça doit. On a oui des fêlures, on a ouais peut-être, je sais pas. Oui, ouais. Moi, j'ai passé ma jeunesse, mon enfance à entendre que j'étais pas sexy,
ah ouais,
j'étais pas beau.
Sérieux?
J'étais le petit gros.
Non.
Qui faisait des blagues.
Ah ouais.
Ah ouais, si.
T'es devenu beau à quel âge?
Mais je pense pas être beau déjà d'une.
Si, arrête,
non.
Mytho.
Non,
tu sais que t'es beau, Redouane.
Je t'assure que non.
Arrête.
Non. Puis ça veut dire quoi être beau?
Bah, tu sais que tu plais aux meufs, non?
Pas particulièrement. Non, mais pas c'est particulièrement. Non, puis bizarrement, moi, les meufs, les femmes qui me plaisent, elles sont généralement soit déjà en couple et avec des gars qui sont aux antipodes de ce que je suis, puis même de ce que je veux représenter comme valeur. Donc je me dis que quelque part, bah, elles ne sont pas pour moi, et puis pour la bonne raison qu'elles sont avec des mecs qui ne partagent pas du tout les mêmes, la même vision du monde. Donc j'ai saboté des relations, je pense, parce que j'estimais ne pas être à la hauteur de la femme avec qui j'étais, ça c'est possible. Ça c'est fort probable. Je pense que je suis dans un truc un peu, je culpabilise un peu parce que on fait le même métier, on est des comédiens, comédiennes, auteurs, acteurs, actrices, on se pense dans le monde, on pense le monde. Et puis moi j'ai eu des parents ouvriers, prolétaires, tu vois, ils faisaient des choses, pas forcément des grandes études, donc je culpabilise un peu parce que j'ai cette chance là moi de pouvoir côtoyer des gens très lettrés, très voilà, des prix dans des festivals de cinéma, voilà, du cinéma. Et donc oui, je pense qu'il doit y avoir un peu une espèce de syndrome de l'imposteur, tu vois. Et ça doit déteindre aussi dans mes relations amoureuses, je pense, ça c'est sûr.
Et tes parents, ils sont de quelle origine?
Alors moi j'ai perdu mes parents, j'ai perdu mes deux parents. Ma maman était. Je ne les ai pas perdus au supermarché. Le petit Redouane, attends ça. Non, ma maman était algérienne et mon papa était marocain.
Ok.
Cocktail de dynamite.
Deux identités bien distinctes.
Ouais, c'était assez intéressant. Comme quoi, hein, l'amour.
Ouais, c'est clair, peut réunir.
Tu vois.
Des rivalités
ouais, c'est amour,
culturelles.
Amour, ouais.
Tes parents, ils se sont rencontrés où?
Ils se sont rencontrés dans un bus.
Non.
Ouais. Ils se sont rencontrés dans un bus à Metz. Pile le jour de ma naissance. Non, je rigole. Non. Ils se sont rencontrés dans un bus à Metz. Voilà, mon père était ouvrier. Ma maman travaillait déjà. Ma maman était standardiste à l'hôpital Belle-Île à Metz. Mon père travaillait dans la même usine que mon grand-père maternel. Je ne saurais plus qui n'avait pas de monnaie, mais l'un a aidé l'autre. Et voilà, ils se sont rencontrés comme ça.
Et ils ont eu combien d'enfants?
Deux.
Deux seulement?
Étrange pour des Arabes.
C'est...
Non, bah, je l'ai nommé. Si la radio pouvait avoir des yeux. Mais ma maman et mon père ont eu deux enfants, donc mon grand frère et moi. Et mon père, en parallèle, il a construit une autre famille au Maroc. Donc
après,
j'ai d'autres pendant en parallèle. Hein. C'était un.
Wow! Ah ouais, c'est un truc de ouf quand même, ça. Tu as écrit là-dessus? T'en parles ou pas dans ton spectacle, dans tes spectacles?
pas particulièrement.
Non.
Je pense que c'est un truc que je...
Trop intime ?
C'est pas ça, c'est que je pense que j'ai pas encore fait le...
Le travail.
Le travail ouais. là-dessus, tu vois. Et
Tu l'as appris à quel âge ?
Ouais, je l'ai appris tard. Ouais. Je l'ai surtout bien compris. Non, je l'ai appris tôt, mais j'étais jeune. Parce que ma maman, c'était quand même une... C'était une guerrière. Hein. C'était une femme très... Mais ils se sont aimés jusqu'à la fin de leur vie. Hein. Il s'avère que quand mon père est décédé, ma maman était déjà malade. Et elle était donc à Metz, lui était sur Paris. Et ils n'ont pas pu se voir. C'est-à-dire qu'ils se sont dit au revoir. Parce qu'elle, elle était très fragile à cause des infections et tout ça. Elle ne pouvait pas se déplacer d'un hôpital à un autre, prendre le train, la clim, les conneries, tu vois. Et ils se sont dit au revoir par téléphone, quoi.
Et moi, j'étais... Quel âge ?
Ma maman ?
Quand elle est décédée ?
Ma maman avait 64 ans.
Ouais, très jeune.
De toute façon, c'est toujours trop tôt hein, de perdre...
Non, 95 ans, c'est le bon moment, je pense.
J'en parle, ça, là-dessus, j'en parle, par exemple. Mais c'est, j'en parle dans mon spectacle, où je dis, mais... Tu sais, les gens qui disent... Que quand tu dis ouais j'ai perdu mon grand-père, ah mais quel âge il avait? 94 ans. Ouais, oh ça ouais. va ouais. C'est horrible de dire ça, comme si tu pouvais ouais. comme si un âge pouvait justifier
non, ça la, fait toujours de la peine terrible. Mais en même temps une personne malade et âgée 64 ans aujourd'hui c'est hyper jeune.
C'est très jeune puis surtout quand moi c'était ma meilleure amie hein, donc j'ai perdu ma meilleure amie. J'ai perdu ma meilleure amie.
Et t'avais quel âge?
C'était il y a 2 ans.
Oh putain.
Donc, et puis non mais surtout tu te dis non mais c'est là où j'ai vu que ma Rome elle était puissante, elle était très très puissante, c'est quand c'est marrant, c'est la première fois que j'en parle en moi je suis aux 15 personnes là qui vont nous écouter mais
tu rigoles, il y a beaucoup plus de 15 personnes qui nous écoutent. Mais il y en a minimum 3000.
Combien?
Au moins 3000.
C'est magnifique. Et puis j'espère que
c'est et puis c'est pas n'importe quelle 3000 personnes.
Oui, c'est des gens impliqués, quoi, qui ont envie d'écouter.
Ouais,
qui ont envie
ouais, ouais, absolument.
Mais non, ce qui m'a impressionné, si tu veux, donc, quand mon papa est décédé, moi j'étais avec lui à l'hôpital. Et ma maman, donc, était à Metz. Donc moi j'étais à Paris. Et ça m'a impressionné de voir ce monsieur qui, c'était pas un rigolo, hein, mon papa, tu vois, c'était un monsieur, il avait une balafre du front jusqu'au menton. C'était quelqu'un qui était très, très, très aussi craint que respecté dans son univers, dans son monde à lui. Moi je suis un mec qui fait des vannes, tu vois. Donc je pense d'ailleurs que c'est aussi ça, j'ai un poids assez lourd là-dessus, tu vois. Et ça m'a impressionné de voir ces deux personnes-là qui ont vécu leur vie à leur façon, à leur rythme, et se dire au revoir.
Par téléphone.
Par téléphone,
ouais. C'est horrible.
C'est horrible, ouais. Mais en même temps, c'était très... je veux dire, il n'y avait pas... C'était la meilleure des issues au savoir de... De ce qu'il a pu vivre.
Et puis ils se sont dit au revoir.
Et ils se sont dit au revoir et j'ai vu qu'ils s'aimaient terriblement. J'ai vu c'est quoi dire au revoir à quelqu'un. Voilà, donc je me relève. Non mais pour répondre à ton poème d'introduction, ouais. Ça prend du temps.
Mais elle est incroyable ton histoire familiale et résultat, je me mets à ta place parce que 2 ans c'est tôt et ma mère c'est aussi ma meilleure amie. Donc je me dis que et elle a 64 ans en ce moment. Nice. Donc je me dis je peux même pas imaginer ce que tu as traversé. Mais pour revenir juste à ton père, ça, moi je trouve ça toujours intéressant de savoir comment les hommes se construisent par rapport à l'image qu'ils ont de leur père, comment ça influence leur rapport aux femmes ou leur rapport à c'est quoi pour eux le modèle de virilité. Enfin, je me dis, et notamment, je suis toujours curieuse des hommes dont les pères étaient des grands charmeurs ou des Casanova. Je me dis, mais comment toi ensuite, est-ce que tu fais l'inverse? Est-ce que tu reproduis? Tu vois, Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois très bien. Et c'est encore une fois, c'est pour ça que je te dis que ma Rome, c'était quand même quelque chose de. C'était une bombe. Elle a très vite compris que ses deux enfants, il lui fallait un modèle paternel. Elle a très vite. C'est mon oncle, moi, qui a eu ce rôle-là. Mm-hmm. C'est mon oncle qui nous a élevés, mon frère et moi, tu vois. Mm-hmm. C'est lui qui a eu ce rôle de pater. Mm-hmm. Et c'est pour ça que tu parlais de la beauté. Mm-hmm. Mon oncle est médecin, et Il est radiologue, c'est pas médecin, c'est ouais. pas un petit, c'est radiologue. Il est complètement lunaire, il est complètement fou. Il est à fond dans les bouquins, il est passionné de machines. Il est passionné par son travail. Il a plus de 70 ans aujourd'hui, il continue de travailler. Il est amoureux de ça, tu vois. Et c'est un bel homme. Pour moi, c'est l'homme par définition, tu vois. Très beau, très élégant, très discret, humble, prend pas la tête, c'est un vrai gars. Et puis un homme de famille. Qui sait qu'est-ce que voilà son père, mon grand-père a fait 7 ans de prison avant ça. Donc quand il était jeune, son père s'est absenté pendant 7 ans en zonzon et il a dû assumer très vite une
Donc
famille.
Le père de ta mère.
Non, non, maman, ouais.
Il a été incarcéré pourquoi?
C'était un militant algérien. Il a fait 7 ans de prison, 2 ans à Metz, 3 ans dans le sud, et 2 ans à l'époque, ça s'appelait le château de A, à Bordeaux. C'était des geôles.
T'imagines aujourd'hui si on foutait tous les gilets jaunes en prison? C'est
ce qui se passe un petit peu, ils se font massacrer. Hein. Et, coup de flashball, il y a une révolte qui naît en France en ce moment. On regarde ailleurs, mais il se passe quelque chose. Mais là, pour revenir sur l'aspect paternel.
Donc toi, c'était juste parce que j'ai
une image bien spécifique de mon oncle aux Galeries Lafayette. Il y a quelques, je te parle de ça, c'était plus de. Plus, ouais, c'est lui qui nous achetait des sapes. C'est lui qui venait faire, tu vois. Je n'allais pas faire mes courses avec ma femme. C'est lui, dès qu'il avait un temps, il venait, il me prenait. On va t'acheter une paire de pompes, on va t'acheter un truc et tout. Et je me souviens toute ma vie d'une vendeuse. Tu sais, les vendeuses un peu bling-bling du Galeries Lafayette, tu te souviens parfumées et tout.
Ouais.
Le show, quoi. Et mon oncle, je me rappellerai toute ma vie. Je voyais, c'est mon grand frère qui me dit ah, regarde comment la vendeuse, elle regarde tonton. Moi, je regarde la vendeuse et effectivement, elle avait les yeux qui brillaient. Elle était, et je voyais mon oncle, mais qui lui, il est juste en train de se prendre la tête sur bon, ok, les petits, là, ils ont une paire de pompes. Voilà, le grand, il faut lui choper un jean. Ok, machin, vite la voiture, il faut aller récupérer la manne. Je voyais un mec qui se prenait la tête, pas sur sa beauté, qu'est-ce qu'il dégage, mais qu'est-ce qu'il faut faire là, maintenant, tout de suite, dans l'instant T, pour sa famille. Tu vois ou pas?
Et, ouais, je vois très bien ce que tu racontes. Et moi aussi, ton oncle, c'est mon style d'homme. Enfin, en tout cas, tel que tu le décris, il a exactement les qualités viriles que je pense nécessaire à un homme. Bien que mon père, qui est pourtant aussi viril, il voit très bien quand les femmes le regardent. Et il rougit et il est content.
Ouais,
et
ouais,
je me souviens très bien quand on allait au resto. C'était surtout relou pour ma mère. Moi, je crois que je ne le comprenais pas tout à fait. Mais il faisait toujours des « Ah, merci, mademoiselle, comme merci pour le pain. » Enfin, je pense que s'il y avait des serveuses qui étaient... Ça ne veut pas dire que ça allait... sensible. Enfin, regardant les femmes. Après... Je trouve que c'est vrai que c'est assez charmant, les gens, comme tu dis, lunaires, qui s'en rendent pas compte.
Mais attention, moi j'adore les femmes.
Ouais.
J'adore les femmes, j'adore être avec une femme, j'adore parler aux femmes, j'adore... Non, attention, je suis pas en train de dire que ça me touche pas ou que ça m'échappe complètement. J'adore charmer, j'adore séduire. Oui.
Et ton père, quand est-ce que tu as appris qu'il avait cette double famille?
Très tôt en fait, hein. Très jeune, très très jeune. Moi je me souviens d'une phase où quand on était au Maroc, donc à Casablanca, avec ma maman, mon père, et ma maman a compris qu'il se passait quelque chose, donc elle a mené l'enquête, et puis un jour elle m'a embarqué avec elle, je me rappellerai toute ma vie, elle avait une robe jaune, une très belle robe jaune, elle avait une taille de guêpe et tout. Elle me fout dans un taxi avec elle. J'étais en train de faire des esclandres, je sais pas, parce que j'étais des petits, tu vois, un petit con. Elle m'a acheté un Kit Kat pour que je ferme ma bouche. Elle m'a mis dans la voiture, j'étais en train de grignoter mon Kit Kat. On roule, on s'arrête, on rentre dans un immeuble, on monte 2-3 étages. Il y a une gamine qui joue sur le palier de la porte. Elle me dit de rester là, avec la gamine. Elle toque, ça ouvre, elle rentre, j'entends des cris, je suis avec la gamine, je partage mon Kit Kat, tchouk-tchouk-tchouk. On sort. Et puis plus tard, j'apprends qu'en fait, elle était allée confronter, et c'était ma demi-sœur, et qu'elle était allée, la petite, dans le hall d'escalier, et qu'elle était allée confronter cette dame qui, pour elle, lui avait volé son mari, tu vois.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc tu vois des images très fortes d'une femme qui se tape pour...
Putain. Mais c'est vrai que en fait, historiquement, t'as cette image de... Enfin, que les femmes... Enfin, c'est terrible, quoi. Que les femmes aillent s'affronter entre elles alors que c'est ton père, quand même, qui a... Enfin, c'est, je pense bien qu'aucune femme ne l'a... Tu penses qu'une femme peut voler... Toi, est-ce que t'as senti, par exemple, ça t'est déjà arrivé d'être en couple et de sentir qu'une femme pouvait être une incroyable tentatrice et te voler à ta copine légitime, ou t'as toujours senti que c'était toi qui décidais, que t'avais le choix et que... Est-ce que t'as déjà...
De faire du mal à ma copine?
Ouais.
Bah c'est, de toute façon, c'est toujours que c'est nous qui décidons de faire du mal, voilà, aux autres.
Ouais,
c'est pas,
ouais.
Après, il y en a qui peuvent se délecter de ça,
ouais,
mais c'est toi qui décides de faire du mal à... ou alors je sais pas, sous couvert de là, ils en parlaient ce matin, mais de polygamie ou de machin truc, tu vois, c'est, pour moi c'est ça. Non, c'est clairement, tu fais du mal à quelqu'un, quoi.
Mais après, c'est très bizarre parce que tu peux...
Tu peux avoir des besoins, des désirs.
Oui, c'est très difficile. Enfin, c'est beaucoup plus facile quand t'es enfant de juger, ou adolescent ou jeune adulte, de juger les actes de tes parents et de te dire...
Ah, tout à fait.
Voilà, et qu'ensuite, la vie fait que tu te mets un peu plus dans leurs chaussettes. Tu vois, en fait, toutes les tentations et comment c'est plus compliqué. Et résultat, tu peux aussi pardonner aussi comme ça.
Pardonner, ouais, tu peux pardonner, tu peux excuser, tu peux... Mais un jour, j'étais avec ma maman assise sur un banc en train de, au bord de la Moselle, à Metz. On était en train de regarder... Elle était en train de... Elle était déjà très fragile. Hein. Elle était en train de regarder les canards. Et moi, c'était les moments où je faisais des alertes. C'était très compliqué, c'était un peu chaud. Voilà, moi, ça a été difficile pour moi, la perte du père. Donc, il fallait quand même être là pour la maman. Puis en même temps, il y a une carrière à construire, tu vois, à Paris. Et donc, je faisais des allers-retours, essayer de subvenir aux besoins, l'aider autant que je peux, être aussi au contact avec mon frère, bref. Et un jour, on était assis sur un banc, elle me dit, viens avec moi marcher au bord de l'eau, on va regarder les canards. Et j'avais autre chose à foutre que de regarder les canards, tu vois. Et je me dis, bon, vas-y, je vais me poser avec ma rhum, on se pose et puis on regarde les canards. Et elle me dit, mais tu vois ton père, s'il m'avait écouté, il serait là à côté de moi et regarderait les canards.
Ah, oh, putain.
Et je me dis, mais déjà dans ma tête, je me dis, mais qui veut s'asseoir regarder les canards, tu vois. Je commence à penser, ah, c'est un bon thème de blague et tout.
Ouais.
Et après, je me dis, mais en fait, c'est pas une blague, quoi. En fait, c'est ça dont il s'agit. En fait, c'est quoi dont il s'agit? C'est trouver son âme sœur, quoi. Mmh. Avec qui on peut se poser et puis laisser des silences, regarder les canards, rentrer à deux de tension, marcher lentement, se poser au chaud, tu vois.
Ouais, je suis d'accord avec ta mère, mais ça veut dire qu'elle l'aimait jusqu'au bout.
Elle l'aimait toute
quoi.
Sa vie, c'était l'homme de sa vie. Ouais. Puis lui, c'était la femme de sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est pas un port aux enfants, tu sais, dire pardon, pas pardon. Tout.
Ouais.
En fait, c'est quand nous, on est enfants, c'est cette sincérité poétique-là qu'on voit. Et ce qui nous fait mal en tant qu'enfant, c'est de voir que les personnes qu'on aime souffrent, sont du mal.
Ah ouais, ouais.
Moi, mon grand-père, par exemple, qui était encore plus vieux que mon père, par définition, il l'avait prévenu. Il lui dit...
Ah oui, il l'avait senti.
Ouais, bien sûr. Ah, mais bon, ouais. Après, voilà, il y a les choix du cœur. Puis c'est comme ça que s'écrit aussi l'histoire d'une famille. En faisant des choix, chacun fait ses choix, chacun se... Voilà, qu'est-ce que tu veux.
Ouais. Et toi, résultat, c'est quand... jeune homme, le jeune Redouane, c'est quand la première fois que genre t'es tombé fou amoureux d'une fille?
J'étais au collège.
Ouais.
Elle était à la fac.
Oh putain! La maturité émotionnelle du gars.
J'avais 15 ans.
Mais non.
14 ans et demi, on va dire. J'avais 14 ans et demi.
Ok.
Elle avait déjà 20. Elle devait avoir un peu plus de 10 ans, 10 ans de plus que moi.
Ok. Tu la rencontres où?
En fait, je la rencontre... à l'époque du CPE, tu te souviens le mouvement
ouais,
étudiant,
bien sûr,
le CPE.
Évidemment, les grèves, ouais, voilà. Le CPE, les manifs.
Pendant cette période-là.
Ok.
C'est-à-dire
ah ouais.
Que moi, j'allais déjà plus à l'école, hein, je vais pas te mentir.
Ok.
J'étais déjà en mode, c'est bon, on ouais. déambule dans les rues,
ok.
machin. Et je commençais à suivre un peu mon grand frère, tu vois.
Ok.
Et lui était très impliqué à Metz dans la vie militante étudiante, ouais. Messine.
Mm-hmm.
Donc, ils prennent d'assaut la fac.
Mm-hmm.
Et puis moi, je me suis mis dans les petits, je me suis glissé dans les jupons de mon ref, tu vois.
Ouais.
Et je l'ai rencontrée, donc cette fille.
Donc c'était cette... genre une déléguée syndicale.
Pas du tout,
étudiant,
c'était une étudiante qui aujourd'hui qui est une ingénieure des forêts brillante et maman et tout. Et
Putain, je t'aurais tellement vu avec une ingénieure des forêts.
faut croire que c'était le cas vu que j'étais un peu avec elle pendant je restais avec elle quelques années. Hein.
Ah ouais, mais donc avec 10 ans d'écart.
Ouais, ouais.
C'est un truc de ouf,
ouais,
gars.
Ouais, c'est tout, c'est top.
C'est la classe.
Elle faisait du violoncelle. C'était une Alsacienne.
Ouais.
Grande famille, Alsacienne. Okay. Voilà.
Et donc, résultat, ta première copine, donc c'était une femme. C'est, en fait, c'est presque elle qui t'a appris la sexualité. Donc...
Ah, clairement, ouais.
Ah ouais.
Clairement.
Tu te rends compte, c'est trop bien, c'est une chance incroyable par rapport au nombre de gars qui se font dépuceler, mais un peu à droite, à gauche, avec des meufs qui kiffent pas, et puis c'est un peu triste, un peu glauque, un peu humilié, ils savent pas.
Ouais.
Alors que toi, tout de suite, c'est une histoire d'amour avec une nana de 10 ans de plus, c'est génial, quoi.
Ouais, ouais. Ouais, non, c'était une période magnifique. Ça, et puis ça coïncidait aussi avec la période où je découvrais le théâtre.
Mm-hmm.
D'ailleurs, la première troupe que j'ai intégrée, c'était une troupe de théâtre universitaire. Suite à ce.
Et t'étais le plus jeune.
Ah bah ouais, évidemment. J'étais surtout le seul qui n'était pas étudiant.
Et ouais. Et donc t'as arrêté le collège.
J'ai arrêté, ouais, le collège. Ouais. Très vite.
Putain. Donc t'es un autodidacte.
Ouais, je sais pas, non, parce qu'on apprend avec les gens quand même. Mmh. On apprend avec en rencontrant les gens. On apprend avec. Tu peux apprendre tout seul, comme un ermite.
Ouais.
Autodidacte.
C'est de ça, donc adolescent, cette troupe, tu fais du théâtre, et ensuite c'est comme ça qu'est née la passion et que tu as eu envie de devenir. Et que tu es devenu acteur et humoriste. Et...
Ouais, ça doit. Ouais.
Et résultat, tu considères que c'est quand que tu as. Tout d'un coup, ça a commencé à sans parler de ta carrière d'acteur ou d'humoriste, en tout cas, quand est-ce que le stand-up rentre dans ta vie, à quel moment?
Très tôt, moi déjà tout petit, je voulais faire rire tout le monde, j'adorais faire rire ma maman elle avait un rire, elle résonnait dans toute la barre d'immeubles, j'adorais la faire rire, j'adorais faire rire les poteaux dans la cour, déjà en primaire dans la cour de récréation, j'adorais faire rire tout le monde, la policière qui nous faisait passer, le passage piéton, j'aimais bien faire rire les gens,
okay.
Toujours. Et puis j'ai toujours été, moi je viens de Metz, donc c'est la ville de Coltès, la ville de Verlaine, c'est une ville un peu mélancolique, il y a une espèce de mélancolie ambiante, les hivers sont rudes, et c'est la pierre de Jaumont, la nuit en hiver ça ressemble au Londres des années 15, des années 20, tu vois, des petites ruelles humides et tout, il y a une espèce de mélancolie un peu... Et donc, j'ai toujours eu cet entre-deux-là, tu vois, entre le rire et la...
La noirceur.
Et la poésie. Ouais, la ouais. poésie. Et je sais pas, depuis tout petit, pour moi, il n'y a pas un moment où ça ne m'a pas traversé l'esprit. Aussi loin que j'aille dans mes souvenirs.
C'est toujours été là.
Ouais, toujours.
Et Paris, t'as aimé vivre à Paris, venir à Paris?
Alors, en fait, je n'ai pas fait Paris tout de suite. Hein. Je suis parti d'abord à Saint-Nazaire, mm-hmm. où j'ai fait mon lycée. En fait, j'ai arrêté le collège et déambulé pendant un an. Après, j'étais à Saint-Nazaire dans un lycée qui s'appelle le lycée expérimental de Saint-Nazaire, sur les pédagogies alternatives.
Mm-hmm.
Donc, c'est un lycée autogéré. C'est les élèves et les profs qui font les cours.
Mm-hmm.
Donc, tu as des élèves de 30 piges, 40 piges avec des profs, des jeunes profs de 20 ans, 22 ans, tu vois. T'apprends la menuiserie, j'ai appris la musique, j'ai appris à travailler le bois,
mm-hmm.
j'ai appris plein de trucs de ouf. Et puis après, j'ai rencontré des amis là-bas et j'ai un pote qui, lui, après le lycée, il a dit « je vais à Paris, je vais faire une école de théâtre
mm-hmm. ».
Moi, je suis parti faire une école de jazz à Nancy, je suis resté en contact avec ce pote. Je suis revenu le visiter à Paris, j'ai squatté son canapé pendant des mois et puis j'ai fait une école de théâtre, les cours Simon, après mon école de jazz.
Waouh, trop de casquettes. Et le jazz, mes résultats, t'as pas voulu devenir jazzman?
C'était école de jazz, mais ma vraie formation, c'est en fait musicien de studio, toi, à la base, derrière des chanteurs, des chanteuses. C'est pas ce dont j'avais envie, je crois pas.
Tu voulais la lumière?
Pas tant, parce que les bassistes, attention,
ouais.
On les voit peut-être peu, mais quand on les entend pas, il n'y a rien qui se passe. Mais non, c'est pas, je pense pas que je voulais la lumière. Non, je pense que j'ai perdu un an et demi. Enfin, pas perdu, mais parce que je voulais peut-être pas faire comme le copain, tu vois. Le copain, lui, il était allé au cours Florent, machin, papa, maman qui lui payait les cours, était dans un truc. Moi, j'avais pas trop de thunes, je voulais me rapprocher un peu de ma famille, donc je suis allé à Nancy parce que c'est pas loin de Metz. Mais en même temps, ouais, non, je sais pas. Et puis voilà, quand je suis arrivé à Paris, pour répondre à ta question, c'était canapé, squattage de canapé, jouer dans le métro, faire des sketchs dans le métro. J'avais déjà joué dans la rue avec la musique. Voilà.
Et t'as une copine quand t'arrives à Paris?
Ah non. J'ai pas de copine, j'ai personne.
Ah ouais.
Connais personne, je connais que mon pote qui lui connaît ses potes à lui de son truc, mais bon, j'ose. Voilà.
Tu mets combien de temps à trouver une petite copine?
À Paris. À Paris. Quand je trouve mon appart.
Ouais. Tu te sens.
Mon deuxième amour.
Ah.
Ouais.
Elle faisait quoi?
Elle fait toujours. Elle est
là que tu dis ingénieur de recherche.
Non, elle est juge. Elle juge.
Incroyable.
Juriste ou juge? Juge.
Oh, ouais, t'aimes les femmes intelligentes.
Ouais, je sais pas. Bah, oui, c'est mieux, non?
Bah, je sais pas. Ça dépend des mecs. Hein.
C'est mieux d'avoir une femme qui a des choses à penser, à dire.
Je suis bien d'accord.
Juge. Mais là, elle est dans un autre délire. Là. Non, je crois qu'elle bosse même pour une grosse boîte anglaise maintenant.
Ok.
Mariée, pareil.
Ah putain.
Ouais.
Et tu restes combien de temps
avec cette nana? J'ai vu sur Facebook, apparemment, ça avait l'air d'être un très beau mariage.
Ah ouais, sérieux? Vous êtes plus en contact?
Si, sur Facebook aussi, si, toujours.
Ça fait chelou de voir ses ex se marier, non?
Mais ce qui est chelou, c'est que c'est souvent très peu de temps après la rupture.
Oh putain.
Tu vois? Ouais, c'est ça le truc chelou.
C'est toi le déclencheur. Tu donnes envie aux femmes de se maquer après, c'est ça?
C'est ça. Et je me suis posé la question d'ailleurs. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'à chaque fois que je quitte, je me sépare d'une. Enfin voilà, d'une. Ça perd pas de temps, quoi. Putain. Très peu de temps après, soit enceinte, soit mariée, soit. Je me dis, mais attends.
Parce que ça doit être tellement passionnel avec toi qu'elles se disent, ouf, c'était beau, je l'ai vécu, maintenant je peux me faire chier jusqu'à la fin, en fait, ça y est, c'est fait.
Tu crois?
Peut-être.
Oh, ce serait triste, bordel.
Non, bah ça serait. Enfin, c'est.
Non, mais c'est triste pour moi surtout.
T'es l'homme passion.
Ah non. Non, mais moi j'adorerais.
T'as pas de copine en ce moment?
Non. Non, j'ai pas de copine. C'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué.
Aujourd'hui, pour tout le monde. Hein.
Ouais.
L'impression que les gens sont un peu. On est fragile. Hein.
Ouais, on se méfie, puis c'est. Ouais, puis bon, faut.
Et puis, il faut être bien aussi dans sa tête pour se mettre avec quelqu'un, tu vois. Moi, je pense que je suis encore dans un truc un peu.
Tu fais le deuil encore?
Ouais, je crois bien. Hein. Un peu autodestructeur, un peu le deuil, un peu. Ouais, un peu. Ouais, il faut être bien dans sa tête.
Toi, tu veux des enfants?
J'en veux 5 et demi. Non, je sais pas, oui, certes. Bah, ouais, je sais pas. Les enfants, c'est un délire. Hein.
Ah ouais, mais ça se trouve, t'en veux pas?
Je sais pas.
Bah, si tu sais pas, c'est que tu sais pas. Mais ça veut dire que peut-être t'en veux aussi.
Ça veut dire que je sais pas.
Ouais. Ça veut dire que peut-être si tu tombes sur une nana et qu'elle est très, que vous êtes très amoureux, qu'elle te dit j'en veux pas, ça veut peut-être dire que t'en auras pas.
Mais la dernière femme avec qui j'étais très amoureux, elle aussi. Puis malheureusement, voilà, on s'est séparés quand j'ai perdu ma maman, juste après avoir perdu ma maman. Donc il y a un peu moins de 2 ans. Et depuis, donc voilà, personne, pas de relation depuis, enfin pas de relation
sérieuse
depuis. Et
elle voulait des enfants, cette copine?
Enfin, elle s'était donné une s'est dit pas avant tel âge.
Ah ouais.
Ouais.
Ouais. Donc elle était pas pressée, quoi.
Pas pressée, puis en même temps, moi j'étais pas au top de ma vie, quoi.
Toi, tu as déjà pris de la drogue ?
La drogue, non. Pas, jamais pris de cocaïne, jamais pris d'MD.
Ah ouais, juste des joints ?
Je tape une petite latte sur un joint de temps en temps.
Ah ouais ?
Mais non, moi j'ai eu des soucis. Je pense que l'alcool peut-être.
Ouais.
J'essaie de m'en remettre aussi. Et puis je pense que nous, les Nord-Africains, on n'est pas fait pour l'alcool lourd.
Ah ouais.
tu vois, la bourra, le whisky, tous ces délires-là.
Ouais.
Mais ouais, c'était ça, c'est un peu ça mon souci, je pense. Le whisky, l'alcool lourd. Mais
c'est bien d'avoir des problèmes quand même. Ça me fait un peu flipper aussi, tu sais, tous ces artistes, tous ces humoristes qui sont sains, quoi, qui n'ont aucune addiction, aucune... Enfin, je me dis... tu vois, je trouve ça, ça me fait pas trop rêver. J'ai l'impression que c'est un peu ce que produit l'humour français, quoi. Que comme on veut des gens qui passent à la télé puis qui aillent faire rire en province la ménagère et ses quatre enfants, on choisit des gens qui ont des petits soucis, mais pas vraiment des gros soucis. et que moi, ce que je rêvais en rencontrant, quand je me suis lancée dans le stand-up et après avoir regardé du stand-up américain, bah, je sais pas, c'était des humoristes qui vont jouer à minuit et demi, qui ont dormi toute la journée, puis qui sont mal, quoi. Tu vois, j'avais envie de rencontrer des artistes, des poète, quoi, pas des gens qui, je sais pas, qui...
Ouais, la vie, quoi, la vraie vie.
Ouais.
C'est, enfin, même si, voilà, la vie, des fêlures, des brisures, des cassures. Mais en même temps, c'est bien aussi d'être bien.
Ouais, c'est un entre-deux.
Il faut trouver juste milieu, ouais.
Ouais,
c'est
ouais,
pas facile.
Ouais.
C'est pas facile. Moi, je te dis, c'est une bagarre.
Ouais.
Je me tape, c'est une guerre.
Ouais.
Une guerre permanente contre soi-même.
J'ai trop hâte de voir ton spectacle à la Nouvelle Scène. En fait, je t'ai juste vu en plateau, mais je sais pas comment dire. Enfin, déjà, je t'ai trouvé génial en plateau. Là, je t'ai revu récemment au Fridge. Enfin, pour moi, t'étais largement le meilleur. Mais parce que, au-delà du stand-up, enfin, il y avait toute une personnalité, quelque chose de bien plus profond, en fait. Et pas, en plus, quelque chose de putassier vis-à-vis du public. Moi, c'est ça qui m'a attirée. C'est que je trouve que parfois, ce côté je laisse du temps après ma punch pour entendre le rire. Enfin, je sais pas comment dire. Alors que toi, il y avait plus un côté de... C'était la mise en danger était un peu plus importante. Et puis, je sais pas, il y avait un truc où tu mettais une distance de pudeur entre toi et le public. Je sais pas comment dire. Où tu voulais pas leur plaire, oui, mais tu vois ce que je veux dire.
Je vois parfaitement. Enfin, je vois sans flagornerie. En fait, moi, c'est mon grand défaut. Enfin, moi, j'entends ça. On me dit souvent, mais Redouane, comment t'estimes que lui, il est plus connu que toi? Ou pourquoi ça marche plus pour lui que pour toi? Ou pourquoi lui... Enfin, tu vois.
Ah ouais, on dit ça.
On me dit souvent ça.
Ah ouais.
Enfin, en tout cas, les personnes qui me le disent souvent se ressemblent beaucoup. c'est ça que je dis.
Ok.
Et en fait, moi, j'ai réalisé un truc, c'est que quand j'étais plus jeune et que j'avais encore mes parents, j'étais dans un truc très vas-y, je veux y arriver, vas-y, je veux être connu, vas-y, je veux ci, vas-y, je veux ça. Tu sais, j'étais dans un truc très carnassier en fait. Ah, je veux manger tout, je veux le succès, je veux tout ça. Et en fait, j'en veux pas. Ça m'intéresse pas. Je préfère être reconnu plutôt que connu. En fait, je préfère qu'on me. Si jamais on doit me féliciter ou si jamais. Je préfère qu'on le fasse parce que j'ai fait un bon rendu. J'ai rendu une belle copie. Propre, à la hauteur de l'éducation que j'ai reçue, et clean, tu vois. Et je cherche pas je vis, enfin, quand j'étais un peu plus exposé à l'époque où je faisais les chroniques sur France Inter, la chronique sur Canal Plus dans l'émission Le Supplément, que je faisais un peu de cinéma où je faisais un peu plus de cinéma et qu'on me reconnaissait on me reconnaît un peu de temps en temps dans la rue, mais très mal à l'aise. J'étais dans un truc en fait, mais je sais pas ça que je. On veut vraiment ça? Est-ce que c'est ça qu'on veut?
Donc à un moment, tu as eu une grosse exposition médiatique. C'était avec toutes ces chroniques ou c'était le Jamel Comedy Club?
Il y a ça aussi, Jamel. Oui, je pense que j'ai fait un burn-out, ouais.
T'as fait un burn-out?
Ouais, clairement. Clairement.
Et t'étais produit.
Sexy, hein, le sexy, le raid.
Non, mais moi, pour moi, c'est là des
fiches. Sexy, raid.
Mais si, c'est sexy, c'est ça qui est sexy, c'est d'avoir des émotions, de ne pas être une machine. Et quand tu fais tout
c'est ça.
C'est ça. Tu vois, bien sûr.
Et le nombre de gens qu'on croise dans ce métier qui te font croire que tout va bien alors qu'ils sont de soi déjà dans la drogue.
Ouais.
Tu parlais de la drogue. Moi, c'est un truc, je me bats contre ça. Mon frère est dedans. C'est terrible. C'est terrible. Et il n'est pas dedans, à côté, tu vois. Il est dedans, dedans. Et ça me tue. Ça me rend ouf. Donc, puis en même temps, bon, voilà, il faut bien que... Moi, je ne suis pas là à dire comment les gens doivent vivre. Mais si ça... Moi, je sais que j'ai un alcool, par exemple. Moi, mon problème, voilà, c'est l'alcool. Je sais que j'ai un alcool qui va regarder que moi. Je vais être dans mon spleen et puis je vais déambuler. Et puis, voilà. Puis les gens vont se dire, ah putain, mais quel gâchis. Enfin, tu vois, mais je ne vais pas m'en prendre aux gens. La drogue, je sais que c'est un truc, tu es dans un... C'est chaud quand même,
ouais,
tu vois.
Ouais, c'est chaud.
Et je dis pas ça pour minimiser une addiction face à une autre. Hein. Chaque addiction, c'est la merde.
Mais tu peux vivre et avoir une... Enfin, c'est ce que
je sais pas,
trouve
en fait,
que ça, la destruction est plus... moins...
Elle est moins flagrante avec la drogue dure.
Ouais.
Tu vois, avec la cocaïne ou... moins flagrante. Tu sais, il y a des gens, tu te rends même pas compte, en fait, qu'ils en prennent.
Ouais.
Il y a des gens, ils vont dire, mais moi, je vois pas ça. Avec un mec bourré, tu le vois tout de suite. Ah,
oui.
Il est bourré.
Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, putain, la coke, il y a des gens qui sont bien coqués. C'est inquiétant. Et en même temps, ça les fait marcher. Tu te dis, mais c'est pernicieux. Tu te dis, ah, bah. Et, mais bon, t'as des gens. Ouais, c'est.
Ouais. Mais pourquoi on a fait cette digression ?
En fait, ce qui m'intéresse, c'est quand tu parles de burn-out et de carrière. Et quand tu dis aux gens, ouais, tu pourrais être plus connu. C'est quelque chose que moi qui fais que du stand-up depuis 3 ans, je suis curieuse de ce milieu. Dans le sens où. J'ai l'impression
que. Je viens
que
seulement de voir que tu as fait une teinture à tes cheveux.
Tu viens seulement de le voir ?
Oui.
Ah ouais, bah c'est pour un rôle cet été. Ouais, le bout est rose. Mais tu vois, j'ai l'impression que le stand-up, c'est très facile au premier abord de faire les petites scènes ouvertes, de faire les petits plateaux, de temps en temps jouer. Mais qu'ensuite, pour être produit, pour genre gravir le truc qui fait. Là, tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est très dur d'être accepté tel que t'es et que c'est une machine à te casser en deux et à broire du... Enfin...
Ah oui, c'est terrible. C'est pour ça que je te disais déjà, on ne peut pas réussir sans les autres. Enfin, tu vois, apprendre ou réussir sans les autres, ça c'est impossible, improbable. Et ensuite, oui, les acceptations, on va te demander toujours plus, on va te demander d'être toujours à la hauteur, mais en même temps à la hauteur de quoi ?
Est-ce que toi, on t'a demandé de te conformer, de te formater, de parler de moins de certaines choses,
bien
de parler plus d'autres, etc., de rentrer dans une
case. On me l'a demandé sans. Le pire, c'est qu'on me le demandait en me disant, mais je te demande rien.
Ah,
tu vois.
Ouais.
Ça, c'est ce qu'il y a de pire, de pire. Alors que, ouais.
Parce que t'as un style assez absurde et qu'on te. Est-ce que les professionnels t'ont. Est-ce qu'on t'a déjà fait des reproches? Est-ce qu'on t'a dit, bah voilà, pour que. Il faudrait. Moi, c'est ce que je ressens en ce moment, en fait. Moi,
en tant qu'artiste, en tant que comédienne, quand tu montes.
En tant qu'humoriste, en tant qu'actrice, j'ai pas de. Mais en tant qu'humoriste, j'ai l'impression que je suis dans un carrefour. J'ai l'impression que j'ai une transition qui est en train de se faire où on me dit si tu veux passer l'étape supérieure, il va falloir que par contre, tu arrêtes de parler de sexe. Et donc, je suis en train de me poser cette question.
Tu es en train de te poser cette question de est-ce que c'est legit ? Est-ce que c'est légitime ?
Bah, je sais pas, en fait. Je suis en train de me poser la question de c'est moi qui me trompe ou c'est les autres, je sais pas. J'ai l'impression que moi, ça m'a... En fait, je suis un peu paumée parce que j'adorais Louis C.K., j'adore toujours Louis C.K., j'adorais Blanche Gardin. Et pas que Louis C.K., Sarah Silverman ou Ali Wong, plein d'humoristes américains qui, pour moi, le fait qu'ils parlent de sexualité, c'était le meilleur moyen de créer un lien intime d'identification pour ensuite avoir accès à plein de choses plus personnelles d'eux. Et que je trouvais que c'était quelque chose qui me plaisait dans le stand-up et que moi, parler de sexe ou de choses, ça m'a toujours amusée, même depuis que je suis enfant, en fait. Depuis que je suis enfant, je trouve ça rigolo. Et donc après, avec un certain prisme, tu vois, faut pas que ce soit trash ou gênant.
Non, mais c'est... Bah, tu peux...
Mais même si c'est un
gamin qui monte sur scène faire des blagues de...
Mais et donc résulte, voilà, après c'est sûr que c'est pas, mais et donc maintenant moi ce qu'on me dit c'est non, en fait tu te trompes, Rosa, c'est pas ce qui nous intéresse chez toi. Ce qui nous intéresse chez toi, c'est le côté intello France Culture.
Ouais, mais qui te dit ça, qui te parle comme ça, des producteurs potentiels ou des...
Oui,
mais ouais, mais c'est fou quand même de dire c'est comme si farfelu. Bon.
Toi, t'en penses quoi? Tu me conseilles quoi, Redouane? Toi qui es un des rois du stand-up français, qui est reconnu,
non,
qui a une carrière.
Des rois.
Non, mais tu veux des gens qui ont à la fois le succès, comment dire, l'estime et tout.
Non, je sais pas ça. En tout cas, en ami, si tu veux, en poteau.
Ok.
Enfin, ouais, poteau, parce que maintenant j'ai vu que j'ai 4 ans de retard sur notre hypothétique relation sexuelle.
Je te dis, je
te fais un jour si je régresse. C'est ça. Non, déjà, je pense pas qu'il y ait qu'un seul thème dans le stand-up, entre guillemets, tu vois. La force du stand-up ou la force tout court d'une plume, c'est de raconter bien ce que tu veux.
Mm-hmm.
Et jusqu'à que tu sois, toi, lassé ou que t'en aies marre de raconter mm-hmm. ou de prendre par le prisme que tu veux mm-hmm. Et de le tourner dans tous les sens, le sujet, le thème, tu vois.
Mm-hmm.
Si c'est fait en bonne intelligence, les retours. Mmh. Toi, si les gens avec, si par exemple toi aujourd'hui t'as envie de travailler avec tel ou tel producteur,
mmh.
et que sur un retour de travail, mmh. ce producteur ou cette productrice te dit, j'adore ça chez toi,
mmh.
ça c'est un peu plus faible,
mmh.
et ça, qu'est-ce qu'on en fait?
Mmh.
Si c'est un truc, si c'est, mmh. si c'est un rapport d'égal à égal, intelligent, mmh. où il y a une discussion sur comment ton univers il peut évoluer,
mmh.
c'est ça qui est intéressant. Mais mmh. si c'est juste du « je prends ça, mais ça je le prends pas
mmh. »,
c'est pas producteur ton taf, t'achètes quoi, tu fais de la bourse, tu boursicotes
mmh.
sur des artistes.
Mmh.
C'est pas intéressant.
Mmh.
L'intéressant c'est de pouvoir se regarder 10 ans après avoir signé une première fois avec la personne et se dire, tu te rends compte le chemin qu'on a fait en partant de cette vanne-là et on est là maintenant. C'est ça le kiff.
Ouais, c'est ça que je cherche. Toi, t'as toujours le même producteur depuis...
Pas du tout, moi j'étais ballotté de prod en prod. Mais...
Sérieux?
Ah grave.
Ah ouais?
Grave. Enfin ballotté.
C'est toi qui les as quittés? C'est...
Ouais, oui, la plupart du temps. Non, c'était des accords, des commandes d'accord. Ouais.
C'est dur moralement ça. De sentir qu'à un moment, t'as la fame, le regard, puis que ça peut s'écrouler, puis que les gens y croient, puis pareil, puis enfin, je veux dire, faut une confiance en soi de fou, quoi, pour... Puis, ouais, c'est... Mais bon...
C'est la bagarre.
Ouais, c'est la bagarre. C'est la bagarre, mais bah après, plusieurs...
Seul.
Ouais. Toi, t'es seul, ou t'as un allié dans le travail?
C'est-à-dire...
Un metteur en scène, un co-auteur, quelqu'un avec
là,
qui...
Là, seul. Là, je suis solo.
C'est dur, putain.
Solo.
Ouais.
Mais en même temps, on va finir seul. Hein. En slip.
Ouais, c'est sûr. Bah, après, il y a plein de vertus. Enfin, moi, je suis une grande solitaire, donc
T'écris seul?
J'écris seul. J'écris seul. Par contre, j'ai une metteur en scène, c'est-à-dire
à qui tu partages après ton travail.
J'ai une amie qui vient me regarder, qui vient enfin tu vois, elle c'est pas une coach, genre elle fait jamais de compliments gratos, mais elle me regarde, elle m'écoute, on avance ensemble, c'est une colonne.
Vous avez
quoi.
Une vision commune, vous savez
on
où
on a exactement la même vision, ça c'est incroyable. C'est il y a peu de relations que tu réussis dans ta vie, je veux dire, c'est genre il y a ma mère, il y a cette amie, il y a mon psy. Enfin, en fait, mine de rien, et puis mine de rien...
Ton psy est déjà venu te voir jouer.
Ouais,
mais non.
Je te jure. Et je parle de lui dans le spectacle.
Mais non.
Hein. Je te jure. Ouais.
C'est fou. Il n'y a pas
un
conflit d'intérêt ou il n'y a pas...
Bah, un petit peu, ouais, c'est chelou.
C'est pas... ouais.
Si, mais il aime beaucoup les psys d'autres... je l'ai déjà dit dans le podcast, donc je m'en fous.
Ah, c'est le psy d'autres personnes que tu connais?
C'est le psy de Jean-Pierre Léo.
Jean-Pierre Léo avec qui j'ai tourné.
Mais non.
Si.
Dans quoi?
Dans M de Sarah Forestier.
Ah oui.
Il joue mon beau-père.
C'est ouf. Voilà, c'est un
génie. C'est fou. Ah ouais, putain, mais le psy, il a pas besoin. Ouais, il montre juste ses films, sa filmographie.
Tu rigoles, à un moment, au contraire, il l'accompagnait sur les tournages, tellement il était fragile.
Ah bah, tu m'étonnes. Je l'ai vu, moi. J'ai vu le bonhomme. Je l'ai revu à Londres, il y a pas longtemps. Mais non, je voulais te dire quoi, j'ai un pote, il a un psy. Et un jour, son psy, il est venu, il avait un pantalon en cuir. Et mon pote me dit ça. Il me dit, il a un fut en cuir. Et je lui dis, mais déjà, pourquoi tu me le dis? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu as besoin de m'expliquer le truc? Puis après, moi, je me suis dit, mais comment un mec peut aller au taf toute la journée? Il sait qu'il va être assez. Il a un fut en cuir.
Ah ouais, non. Ah ouais, c'est pas possible. Enfin, ou alors, moi, je pourrais pas avoir un psy qui a des pantalons en cuir.
Ah, moi, je parle pas avec un
psy sur lequel j'ai un doute qu'il ait une sexualité chelou.
Non, je parle pas avec quelqu'un qui a un fut en cuir.
De base.
De base. À part dans un bar, dans un bar de motards.
Ah, c'est trop chiant. Ouais, c'est ça.
Non, mais même le move, dès qu'il bouge, dès qu'il croise les gens, t'entends le bruit du cuir.
Impossible. 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 Je veux bien lire des romans dans lesquels il y a des personnages qui ont des pantalons en cuir.
Oui, voilà.
Là-dessus. Mais voilà. Toi, t'as pas de psy ?
J'ai pas de psy, non.
Non. Les Arabes, quand même.
Alors, moi, je suis pas. Non, mais pas de psy, non.
Tu veux dire que t'es pas religieux ?
Je suis pas. Je suis berbère.
Ok, ok.
Mais.
Tu veux dire berbère par ta mère ?
Par le berbère, c'est le Maroc, par papa. Le
ah
papa.
D'accord, pas Kabyle, donc non, pas, ouais. Excuse-moi.
Je t'en prie, c'est les mêmes, c'est les mêmes. C'est la, enfin, c'est les mêmes.
C'est un, mais t'es un musulman peu, c'est le...
Non, du tout. Je suis tatoué. Non, je suis psy, non, c'est
quoi,
pas, j'en
tatouage
parle. C'est des tatouages berbères.
Ah ouais.
Mais par exemple, dans mon spectacle, j'en parle. Je dis, je suis allé voir un psy une fois. Et je lui demande, je lui dis, est-ce que je suis fou, tu vois ? Et lui me dit, le fou ne se demande pas s'il est fou. Et 500 euros. Par contre, tu vois, et je lui dis, ce jour-là, j'ai découvert que j'étais pas fou, mais que j'étais con. Merci Freud. Mais c'est marrant parce que c'est une vraie embrouille que j'ai eue avec un de mes meilleurs amis. D'ailleurs, on se parle plus depuis, juste après le confinement, sur la psychanalyse, tu vois, sur la psy.
T'as perdu un ami à cause de ça.
Tu te rends compte, comme les poètes à l'époque qui s'embrouillaient à cause d'un sujet.
Tu vois la querelle.
Exactement. Moi, mes querelles de 2020, c'est ça. C'est moi, je trouve que la psychanalyse, c'est not good. C'est pas bon.
Tu sais que moi, j'ai perdu une de mes meilleures amies à cause d'Instagram.
Explique-moi.
Elle m'a dit que j'étais addict à Instagram. Et genre, de là, notre amitié s'est effondrée. Enfin, il y a eu une énorme dispute. Il y a eu plein de...
Et comment elle voyait que tu étais addict à Instagram, enfin, comment?
Parce que j'étais addict à Instagram, que je suis addict à Instagram, mais qu'en fait, ça n'apporte que du bon. C'est-à-dire que tout ce qui me rend justement indépendant du bon vouloir de producteur ou pas, c'est ce que je poste sur les réseaux.
Ouais, c'est ton taf, quoi.
C'est mon taf, quoi. Mmh. Donc en fait, en effet, par contre, que ce soit dans mon podcast ou sur Insta, je faisais à un moment pas mal de stories où je racontais ma life, etc. Il y en avait, mais ça marchait bien. Tu vois, ça pouvait m'arriver. Je sais, une fois, je suis allée porter plainte parce que pourquoi déjà ah oui, la banque, une fraude sur Internet. On m'avait voulu voler de l'argent à un site, etc. Donc je suis allée au commissariat et c'était en plein violence policière. Donc j'étais un peu, je les regardais tous en mode, je veux pas vous parler, mais il faut que je porte plainte.
N'importe quoi.
Et je suis tombée sur. Un flic qui prenait la défense des manifestants et qui était super mignon. Et donc, résultat, je me suis dit,
je vous invite dans mon podcast.
J'ai pas osé, j'étais gênée, mais en même temps, j'essayais de faire des blagues et lui, il était professionnel. Et je suis sortie, j'ai fait genre 50 stories sur lui. Donc, il y a eu énormément d'engagement de la part des gens qui regardaient les stories en mode retourne-y.
Tu filmes ta vie, quoi. Tu filmes
plus trop en ce moment, parce que résultat, justement, maintenant qu'il y a genre tous ces producteurs qui regardent mes stories, je sais
pourquoi
plus.
Pourquoi tu te freines.
Ouais, parce que je pense que je montrais une grosse part de fragilité, en fait, aussi beaucoup dans les stories. Je me montrais beaucoup en doute, je me montrais beaucoup en... Et que en fait, je me suis rendu compte que ça, on pouvait voir cette bienveillance de la... Mais que les gens du métier, ça les faisait un peu flipper. Je pense que voilà,
Qu'est-ce que t'en as à faire ?
J'en ai rien à foutre, en vrai.
T'en as rien à faire du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fais tes trucs, quoi. Qui fait ta vie ?
J'ai peur parce que tu vois, je veux dire, samedi dernier, j'ai fait le truc de Ruquier. Sur la 2,
j'ai pas vu.
C'est une nouvelle émission qui s'appelle On est en direct.
J'ai pas vu.
Et c'est cool, mais en fait, je sais qu'il y a des gens qui bossent dans l'émission, qui regardent aussi. Enfin, je peux pas, genre, juste avant l'émission, filmer dans les toilettes en disant j'ai peur et j'ai envie de mourir. Et
mais regarder. C'est drôle.
Bah ouais, je sais, ouais.
Mais c'est gaulerie.
Ouais. Ouais, t'as raison. C'est juste que je sais pas encore.
Le bruit,
si...
tu commences la vidéo au bruit de la chasse d'eau.
Ouais.
Non, c'est drôle.
Ouais, ouais, t'as raison. Non, mais je retrouverai. Je pense qu'il y a un moment où tu te sens légitime quand t'as zéro regard sur toi. Puis un moment où il y a quelques regards sur toi, tu t'as un peu peur. Puis quand il y a vraiment des regards sur toi, t'en as plus rien à foutre et tu te dis bah c'est comme ça, c'est le deal, c'est le package. Mais
mais il y a rien de pire dans l'humour que de se prendre au sérieux. Ça, c'est, enfin.
Bah moi, on me reproche de pas assez me prendre au sérieux. Tu vois, j'ai plein de copains humoristes qui m'ont dit tu te discrédites trop. Je sais pas, enfin c'est des trucs, ils m'ont dit faut renvoyer une image de confiance, etc.
C'est du marketing là.
Bah ouais, ouais.
Je parle avec qui? C'est qui les humoristes? C'est le directeur marketing de l'humour.
Non, mais même, tu vois, où que je suis
Humour
pas...
Corporation. Mais non, il n'y a pas de recette miracle à part être soi-même, quoi, je pense. Être soi, c'est déjà tellement dur d'être soi. D'être soi-même, avec toutes les embûches, tous les pièges. Être soi, c'est top. Ça n'a pas de prix d'être soi-même. Rigoler de soi, lâcher prise. Qu'est-ce que tu t'en fiches du regard de tel ou tel producteur ou de tel ou tel... Et puis si c'était si facile à dire, ils montraient sur scène eux-mêmes. En vrai, je pense.
Ouais, c'est clair.
D'aller se taper devant 10 personnes, d'aller jouer devant 10 personnes au chapeau. Dans des salles, dans des pubs obscurs de la capitale. Pas tout le monde le fait.
Mais c'est, tu vois, discuter avec toi, c'est génial. Et c'est aussi ça qui m'a vraiment rendue amoureuse du stand-up. C'est des gens comme toi, extrêmement modestes, extrêmement... Et qu'il n'y a pas ça beaucoup chez les acteurs. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas, mais il y a beaucoup d'acteurs qui se prennent vraiment très au sérieux. T'as moins des gars comme genre des Yacine Bellous, tu vois, des gens qui vraiment...
qui sont là depuis des années.
Ouais.
Et qui font leur petit bonhomme de chemin, qui n'embêtent personne.
Non.
Ils se construisent. Ils se construisent.
Ouais, et qui sont des bonnes personnes et qui sont des artisans, en fait, qui viennent pour travailler, qui viennent pour... mais ouais, et c'est ce qui est cool dans les plateaux, c'est aussi cette notion de travail, de machin, enfin sensé. Mais après t'as des gens bien sûr qui se prennent plus au sérieux. Mais
non, mais il faut quand même des fois assumer son. C'est marrant parce que l'autre jour je croise Camille Lelouch,
ouais,
que je connais bien parce qu'à l'époque j'habitais dans le Marais, elle travaillait dans la restauration, donc je prenais mes cafés à l'époque où elle était.
Serveuse au Coste, c'est ça?
Non, pas du tout. C'était un petit café de quartier. Rue de la Terrasse, ça s'appelait à l'époque. Rue des Audriettes.
Ouais.
Bref, je prenais mes cafés là, tranquille. De temps en temps, Pierre-Emmanuel Barré venait, je buvais mes cafés avec lui, on écrivait.
Trop bien.
Ça, je te parle d'une époque. Mais moi, de me replonger dedans. Et l'autre jour, je la croise au Frige, tu vois. Très jolie, je la vois, je dis salut Camille. Elle me dit, oh, elle est très contente de te voir et tout. Et elle était avec des amis et elle dit, je vous présente. Elle dit, vous le reconnaissez? Et les filles font non, ses copines font non. Moi dans ma tête, elle me dit bon, pas de soucis, je m'en fiche que mon reine, c'est pas bon. Elle me dit mais si, c'est Redouane Arjan. Et là, les personnes font ah oui, genre mon prénom, tu vois, elle est plus connue que mon visage sur le moment. Et je me dis, c'est peut-être ça le
succès. Ouais, mais oui, je te l'ai dit d'ailleurs quand on s'est vu, on a fait le plateau, que t'as un nom incroyable. Redouane Arjan, d'avoir un mime en âne, c'est joli. Enfin, alors, maintenant que je le dis, âne, non. Non, mais
c'est très intelligent, un âne.
Arjan. Non, je sais pas, c'est les N, je sais pas, il y a un truc, ça sonne bien. Pas tout le monde a un beau nom, quoi.
Ma maman me disait la même chose. Elle me disait, c'est très. Elle aimait bien l'idée, ce que tu as bien. Elle me disait pareil que toi.
Ouais. Bah ouais, c'est clair.
Maman, c'est le mec, le gueule fou. C'est dans le studio, on dirait un truc ésotérique de ouf.
C'est clair. Putain, en plus, on vit les derniers moments de sociabilité, là. Qu'est-ce qui va se passer? Putain.
Là, c'est chaud.
Ah, ouais. Oh, putain.
C'est chaud.
Aïe. Bon, écoute, on va... Donc là, t'habites à Biarritz, maintenant, en ce moment?
Je suis entre le sud-ouest et Paris, ouais. Moi, il me faut l'océan. Je suis un... Il me faut soit l'océan... il me faut l'océan Bretagne ou sud-ouest. Il me faut l'océan. Là, je me mets à fond dans le... Dans le surf, j'ai envie de me prendre des vagues dans la gueule.
Trop bien.
Tu vois, quand l'océan il veut pas de toi, il veut pas de toi. Quand il t'accepte. C'est physique, j'aime bien.
Mais c'est hyper dur le surf. Donc, mais t'es très sportif, tu fais aussi un sport de combat à côté, c'est ça?
C'est un art martial, ouais. Je fais du jiu-jitsu brésilien.
Wow. Tu peux tuer quelqu'un, quoi.
En jiu-jitsu brésilien?
Ouais.
Oui, j'imagine que tu peux tuer quelqu'un, ouais.
Putain. Ça,
mais tu peux tuer quelqu'un sans faire de sport. Tu peux avec une voiture. Prochain thème de ton podcast. Comment tuer les gens?
Non, mais si, mais tu rigoles. Mais c'est, je pense, une vraie frustration parfois en tant que femme.
De faire?
De sentir que c'est plus compliqué pour toi de tuer autrui.
Eh bien, c'est faux. Figure-toi que moi, je m'entraîne. Là où je m'entraîne, il y a beaucoup de femmes.
Ouais.
Et il y a des fois des femmes qui sont voilà, bon, physiquement, je sais pas, qui sont plus petites que moi, qui sont plus menues que moi, et elles me mettent à l'amende. Elles me mettent à l'amende. Elles ont une technique, elles ont une souplesse, elles ont une agilité.
Elles te renversent.
Alors, elles me renversent, et une fois qu'elles me renversent, elles me...
appuient dessus.
Elles savent...
te tordre.
Ouais, clé de cheville, clé de poignet, étranglement.
Waouh.
Oui, ça y va,
t'as déjà rencontré une nana là-bas? Genre, t'es déjà sorti avec une meuf de ta salle?
Non, c'est interdit.
Ah, c'est interdit?
Enfin, c'est interdit, c'est pas...
C'est pas recommandé. T'imagines là comment elle te remet à l'amende si ça se passe pas.
Ben, c'est...
Ah, tu m'as pas rappelé.
Non, c'est sûr... c'est très... Non, c'est surtout que c'est pas très déontologique, quoi. Je dirais que c'est pas... Mais après, si c'est l'amour de ta vie ou si c'est...
Bah, c'est ça, tu vas pas...
Mais bon, si c'est pas le cas, puis c'est con. Vaut mieux... Non, tu viens sur le tatami, c'est pour donner autre chose, quoi.
Ouais. Il y a zéro érotisme sur le tatami.
Quand un homme tourne avec une femme ou quand un homme tourne avec un autre homme?
Enfin, dans tous les sens du...
Ouais, j'imagine que... Après, c'est comme... C'est... Non, en tout cas, moi, j'ai pas cette impression-là, parce que c'est beaucoup de technique, t'es là, tu travailles la technique.
Ouais.
Moi, ça m'a fait du bien, parce que j'ai commencé à faire ça. Ça m'a aidé à me recentrer, quoi, à me remettre dans le sol, quoi.
Et là, t'arrives à moins picoler en ce moment?
Ouais, j'essaye. J'essaye.
Et ça parle de quoi, ton nouveau spectacle?
De la mort, de la vie, de l'apocalypse. C'est cette période-là qu'on est en train de traverser.
Trop bien. Bon, attends, je vais te poser les questions de fin. On arrive à la fin, je voulais pas manger en ce moment.
Mais pourquoi tu le manges pas, ce petit macaron?
Parce qu'en fait, ça aurait fait du bruit et c'est pas idéal, en fait. J'avais commencé à le manger, puis en fait, avec le casque, je m'entendais manger. J'étais là, c'est un peu con. Hein. Alors, Redouane, la qualité que tu préfères chez un homme?
La fidélité.
La qualité que tu préfères chez une femme?
L'honnêteté.
Le principal trait de ton caractère?
Fou.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
La constance.
Ton principal défaut?
Je m'éparpille.
Ton occupation préférée?
Vivre.
Ton idée du bonheur?
Que c'est pas tous les jours et que quand ça arrive, ben ça vaut le coup.
Quel serait ton plus grand malheur?
Mon plus grand malheur, je pense que c'est d'avoir perdu mes parents pour rien.
Si tu n'étais pas toi, qui voudrais-tu être?
Si je n'étais pas moi, qui aurais-je voulu être? Non, parce que j'hésite à prendre une ordure. Tu vois, vraiment une ordure.
Ouais. Dupont les Gonesses.
Comment?
Dupont les Gonesses, c'est le...
Non, pire, je Cortez.
Cortez?
Le conquistador.
Wow. Où aimerais-tu vivre?
Au bord de l'eau, je vais entendre les vagues. Au bord de l'eau.
Ta couleur préférée?
C'est quoi ce que tu portes?
Du vert.
C'est le vert.
Ta fleur préférée?
J'en ai plusieurs.
Vas-y, lesquelles?
Orchidée, j'aime bien. Le lys. Les roses. Les coquelicots. Les tulipes. J'aime la nature.
Ah ouais, les fleurs, c'est beau, putain. Ton oiseau préféré?
Mon oiseau préféré? Mon oiseau préféré. Je crois que j'aime bien le corbeau.
Ah ouais? Personne n'aime les corbeaux.
J'aime bien les corbeaux, ils sont intelligents.
Ils sont fourbes, hein. Voleurs.
Ils sont très jolis. Ils ont un truc très... Et puis chaque fois que je les entends... Enfin, à chaque fois, c'est un moment où à chaque fois que j'entends un corbeau, ça tombe pile poil au moment où en fait...
Il va se passer quelque chose.
Ouais, enfin je sais pas.
Il te donne un signal.
Ouais, il y a quelque chose.
Ils sont de ton côté.
Non, peut-être pas jusque-là. Le mec, il part en vrille. Je marche avec des corbeaux dans Paris.
Ce serait incroyable que tu trouves un corbeau.
Il a un nid sous le chapeau. Non, non. Mais le corbeau, je dirais le corbeau.
Ok. tes auteurs, poètes préférés?
Jacques Prévert, Fernando Pessoa, Éluard, Neruda, Lorca, comment s'appelle ce monsieur qui a écrit Avant la nuit?
Céline?
Un Cubain.
Ah non.
Before the Night Falls. Ça a été adapté au cinéma de Julian Schnabel. C'est un Cubain. Je ne sais plus son nom, mais il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Avant la nuit, dans lequel il y a des poèmes sublimes sur, sur cette dictature. J'ai oublié son nom. Reynaldo Arenas.
Ok, j'aurais checké. Un héros de fiction ou une héroïne que t'aimes?
Héroïne de fiction ou héros de fiction? Attends, dans les femmes en auteur dans les femmes en auteur, non, Céline, j'aimais pas trop, mais j'aimais bien. Le mec, le débile. Mais j'aimais. Non, je préfère ses sacs à main.
Ses chansons.
Ses chansons. Non, dans les femmes en auteur, j'aimais bien. Tu sais, elle conduisait des Citroën.
Colette.
Comment?
Colette, non?
Non, elle conduisait.
François Sagan.
Sagan. Ah, ouais. J'aimais bien.
Ouais, François Sagan, c'est bien, j'aime bien aussi.
Voilà. Héros, héroïne de fiction?
Ouais.
Xena la guerrière, j'adore. J'ai pas. Héroïne.
Et de porno, tiens, t'as une porn star préférée?
C'est pas dans... Écoute, figure-toi que c'est un grand débat qu'on a eu avec des potos, là, dernièrement, du jujitsu. Et ben, en fait, j'en ai pas.
Ah ouais, t'as pas.
Parce que eux, ils étaient en train de parler d'actrices de porno, mm-hmm. Actrices de film X. Et ils arrivaient à sortir des noms, quoi.
Ouais.
Et tu sais, moi, j'étais là comme un
gosse.
Non, mais t'sais... Non. Ah, moi, je regarde les trucs amateurs.
Ouais.
Je préfère les trucs où c'est vrai.
Ouais. Où tu te dis. Où ça dérape.
Non, c'est vrai. Où il y a une vérité. C'est vrai.
Ou alors, c'est de très bons acteurs. S'ils arrivent vraiment à faire croire que c'est vrai.
C'est vrai. Mais tu sais que tu regardes beaucoup trop de porno quand tu te mets à reconnaître les acteurs, même quand ils sont masqués.
Moi, je regarde jamais de porno. J'en ai regardé récemment avec une copine parce qu'elle est youtubeuse pour sa chaîne YouTube. Et donc, on regardait un porno pour voir ce qui pourrait nous plaire ou pas nous plaire.
Ouais.
À la base, c'est pas trop ma cam. Mais à un moment, on regardait des vidéos et je trouvais ça beaucoup trop orchestré. et sauf qu'à un moment, je sais plus, sur une vidéo, bah, le mec s'en fait exprès, sa bite sort et puis il la remet dans le vagin de la meuf. Et j'étais genre, ah bah ça j'aime bien. C'est un accident qui se produit dans la vie parfois sur scène.
D'accord.
Voilà.
Ouais,
et je trouve que quand. Ça, je trouve que c'est érotique, tu vois.
Oui, je vois très bien. Oui, bien sûr, c'est érotique. En plus, il y a. Enfin, je ne sais pas comment c'était filmé, mais j'imagine que tu dois avoir un. Tu dois. Il y a une. Oui. Mais en tout cas, non, pour revenir à ta question, je ne connais pas. Je connais peut-être des grands noms de spies comme ça. Mais sinon, je ne suis pas du tout au fait. Et c'est marrant parce que j'étais là au milieu de la conversation. Comme le foot, tu vois, je ne connais que dalle au foot. Et tu sais, je connais pas qui a mis le dernier but ou qui a fait de telle et telle équipe, donc j'étais à côté de... Non, je connais pas. Par contre, je connais Martine du 78 et...
C'est quoi ta catégorie préférée en porno? Tu tapes quoi, que ce soit un moteur de recherche femme?
Le gogol. Sexe. Ils tapent que des trucs... Ils croient que c'est un mode... C'est Google. Non, ce qui est très marrant sur les sites... Là, je suis en train d'écrire un truc là-dessus. Sur les sites porno, c'est les commentaires en dessous.
Ah ouais, il y a des commentaires.
Il y a des commentaires.
Putain, comme sur YouTube, quoi.
Ouais, exactement. Et c'est très très drôle.
C'est des compliments, genre.
T'as tout. T'as des compliments, t'as des mecs, par exemple, qui postent waouh, très belle bite.
Oh, putain.
Tu vois. Non, mais, mais tu sens que c'est des hétéros, mais qui sont vraiment en mode oh putain, ouais, bien. Ou alors t'as des meufs qui mettent putain, j'aimerais trop être à sa place. Ou il passe quand il veut à la maison. Est-ce que vous... Des fois, ils demandent. Est-ce que vous venez dans le 45? T'as des vrais.
Ah, putain, c'est incroyable.
C'est sublime.
Ouais, c'est très naïf, quoi.
Les commentaires. Non, c'est très...
Ouais, premier degré.
Non, mais il y a un vrai monde. Toi, tu viens juste peut-être vite fait te masturber. Mais en fait, non, il y a des gens, c'est leur life, quoi. C'est vraiment...
C'est culture, c'est... Ouais,
c'est leur lifestyle.
Putain, je pense qu'ils sont dans le void. Si ta culture, c'est le porno... Enfin, paraît-il, je sais pas, mais tu peux... Enfin, ça peut être que... Non, moi, il y a un autre truc aussi que j'ai constaté quand on a regardé du porno avec cette pote, c'est que, et après on m'a dit oui, c'est le porno, c'est beaucoup ça, c'est que c'était très marteau-piqueur en fait. Et que bah, dans l'acte sexuel, c'est bien qu'il y ait des petits moments de lenteur.
Oui, plus... Ça dépend après si c'est du cul pour du cul ou si c'est... Ça dépend, je sais pas.
Ouais, mais même du cul pour du cul, à vrai dire. Enfin,
faut être doux,
le cul
faut
que
être un peu doux, oui.
Bah, douceur. Un petit peu,
oui,
de temps en temps.
Douceur, bien sûr. Ouais. Mais bon, ça veut pas dire qu'il y a pas. Là, il y a tous les films X ne sont pas les mêmes.
Ouais.
Ils sont pas tous les mêmes, tu vois.
Ouais. Mais même, en fait, c'est vrai que ce côté. Même, en fait, c'est quoi de la douceur dans le cul? C'est aussi un peu par. Enfin, je veux dire, c'est toujours un peu ridicule le côté marteau-piqueur. Donc tu te dis, même si c'est excitant et que c'est comme ça que t'arrives à l'orgasme, il y a quand même un côté où c'est vraiment le moment où tu penses aux animaux. C'est, enfin, tu vois, quand tu vois les lapins ou les machins ou les trucs. C'est-à-dire que je pense pas que les lapins, ils aient des moves où ils alternent. C'est plus lent, tu vois.
Ils mettent leurs petites pattes sur les...
Ils n'est jamais en train d'essayer, genre sur le côté de tester quelque chose un peu plus, tu vois. Finalement, c'est la marge du.
Ça va, tout va bien. Le lapin qui pose.
Tu vois. C'est le seul moment où on peut considérer qu'on n'est pas des animaux quand on teste un autre rythme, tu vois.
Non, parce que eux, je pense que c'est... Enfin, les lapins... En fait, je ne connais pas trop la vie sexuelle des animaux, mais je dirais qu'en règle générale, c'est un...
Ils testent pas beaucoup de rythmes. C'est un rythme,
oui,
j'ai l'impression.
Oui, c'est surtout de la procréation, non?
Bah, ils doivent en tirer un certain plaisir, sinon ils ne le feraient pas en permanence.
Ouais.
Mais je crois que c'est le principe de la procréation tout court, même celle des humains.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, je crois, même nous. Hein. Ouais. Bah, on est des animaux.
Ouais.
Mais c'est vrai, non, mais bon, après tu regardes un porno pour la culture du porno, c'est pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'ados, d'enfants et d'adultes perturbés. C'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas autre façon de faire que du sexe. Par la violence ou par l'érotisation permanente, par considérer le corps comme de la chair à consommer.
Ouais, c'est flippant, putain. Mais ça, c'est quand même les hommes, hein, putain. Vous êtes flippants, hein.
Tu penses que les femmes ont pas ces travers-là? Ces travers,
je...
Il n'y a pas des femmes qui rêvent de se faire... pas se faire violenter, mais qui aiment se faire secouer.
Si. Mais peut-être que j'ai l'impression que... Enfin... il doit y avoir en effet des nanas. Il doit y avoir dans le 6e arrondissement à Saint-Germain-des-Prés plein de meufs dominatrices avec des grandes. Genre, j'ai l'impression que c'est un truc un peu. Ou de mouvement underground, justement, moderne, en mode on va écouter un concert et puis ensuite je vais t'étrangler. Ou des genre trucs libertins du 6e arrondissement.
On va écouter un concert, t'étrangler.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de genre femme de milieu populaire et ouvrier qui peut genre aimer se faire violenter. J'ai l'impression que cette femme-là, elle va aimer quelque chose de romantique, de respectueux et avec des moments de puissance, mais pas de. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est une force. Alors que j'ai l'impression que chez tous les hommes. Il y a un endroit de...
Ouais, c'est possible. Moi, je ne connais pas tous les hommes de la planète et toutes les femmes de la planète.
Non, mais j'en sais... Enfin,
en tout cas, c'est sûr que... Il y a des gens qui aiment la douceur, il y a des gens qui aiment les trucs un peu plus rough.
Mais je ne sais pas, ça se trouve... Ou alors c'est moi qui n'ai pas suffisamment de fantasmes. Mais je ne sais pas, c'est...
T'as les fantasmes qui te... qui te, je sais pas, qui correspondent, qui te vont, je sais pas. Après, c'est peut-être pas non plus que le débit du coup de rein, c'est aussi le contexte, l'odeur, l'endroit, l'environnement, la personne, le toucher, je sais pas.
Ouais, c'est.
Mais parce que toi, je pense que tu parles du principe, tu veux faire du sexe pour du sexe, c'est pas. C'est ça que tu veux me dire, en fait?
Non.
Non? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer?
Non, j'essaye de me questionner sur pourquoi le porno, a priori, ça touche plus les hommes que les femmes et pourquoi...
Mais c'est vrai ça, tu crois?
Ouais, je crois, je t'assure, Redouane. Même s'il y a des meufs...
Tu penses qu'il n'y a pas de femmes qui regardent le porno?
Il y en a, mais il y en a moins. Mais il y en a moins.
Ouais, je sais pas.
Et je sais pas si c'est l'hormone, je sais pas si c'est la testostérone.
Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui consomment du porno. J'ai lu une étude comme quoi même les femmes regardaient plus de porno sur leur portable.
Ah ouais?
Ouais. Sur leur téléphone portable, hein, pas sur leur ordinateur portable.
Putain.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on serait surpris en fait de
peut-être
savoir que...
peut-être que je discute pas assez avec mes potes meufs, mais j'ai plein de potes mecs et plein de potes meufs, et ouais, quand je discute avec mes copines filles, j'ai l'impression que les fantasmes sont autres, quoi.
Bah, c'est certain.
Mais non, mais j'ai l'impression que c'est de l'ordre de l'érotisme, de la douceur, de la... j'ai l'impression que
non, attends, moi j'ai une copine qui bosse dans un hôtel,
ouais.
Depuis quand même, elle a fait plusieurs hôtels.
Ouais.
Et les semaines de Fashion Week,
ah
où
ouais,
elle récupère les chambres.
Les mannequins, les machins, les
machins, des même pas que des mannequins, des trucs, des femmes,
ouais,
de standing.
Ouais. C'est des grosses cochonnes.
Bah, je sais pas, mais en tout cas, elle récupère des godes, des trucs.
Ouais.
Où tu te dis, bon, il se passe, il y a eu une ambiance dans la chambre.
Ouais.
C'est pas, c'était
elles
pas.
Ça s'est éclaté. Non, mais les godes, pourquoi pas?
Non, mais je veux dire entre elles.
Ouais. Entre meufs.
Oui, mais ça, c'est pas ouais, c'est pas plus important,
ouais,
c'est pas moins sexuel entre elles qu'avec un homme. Mais en tout cas, il se passe des choses, quoi.
Ouais. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que juste c'est plus compliqué pour les femmes de jouir et d'avoir des orgasmes. C'est tout.
Donc, en fait, c'est ça, tout ça, là, tout ça pour ça.
Non, c'est tout ça pour ça.
Mais
en fait, mais si, enfin, Redouane, tu sais, c'est bien sûr.
Ah, donc, tu veux dire que le porno, c'est de la... les femmes simulent l'orgasme dans le porno.
Bien sûr, enfin.
Oui, oui, mais c'est pour ça, moi, je regarde des choses amateurs.
Bah, et même, en fait, alors, tu vois, ça m'a frappé quand je regardais du porno avec cette pote, c'est que tout la fin de l'acte était toujours c'est toujours l'homme, c'est la fin du rapport, c'est l'homme qui et il a joui. Et c'est ça la fin du
c'est
rapport.
Jour, on dirait un mec qui a constaté un accident.
Il y a jamais un rapport où c'est la femme qui l'a genre et ça s'arrête. Il y a jamais une fin de vidéo sur un orgasme féminin.
Ah si, moi j'en ai déjà
vu. Ah bon, bah, alors tu me les enverras, j'en ai pas vu. Et en plus de ça,
j'en ai déjà vu où l'homme d'ailleurs est très content que...
Ah oui, donc parce que c'est la meuf qui envoie plein de ces gens.
Non, pas du tout. Non, non, c'est pas... Non.
Parce que ça, j'ai vu et je trouvais ça, j'étais en mode « What ?»
Ravi. Non mais il n'y a pas qu'un seul film porno sur le net. Hein.
Non, bah, apparemment il y en a beaucoup, mais dans tous ceux qu'on a vus, les meufs étaient tout le temps en mode enfin, elles gémissaient en permanence et en continu, au point que ça me mettait un peu la puce à l'oreille.
D'accord.
Qui est que c'est pas vrai, il y a des trucs sur lesquels
ça simule.
Ouais. Après...
C'est possible.
Voilà,
c'est possible aussi.
Bah, c'est tout. Et c'est juste que c'est plus...
Non, mais de toute façon, consommer du porno... De toute façon, la culture pornographique, elle a... C'est pernicieux, tu vois. C'est comme TikTok, comme... tu vois, pour moi, c'est le même acabit. C'est très orienté. C'est très, très orienté, sexuellement. Tu vois. De toute façon, la culture du sexe, du porno, elle est partout, en permanence. Et je pense qu'il faut éduquer nos enfants à ça.
Ouais.
Tu vois, c'est là, maintenant, ça fait partie du truc. Ça existe, c'est au milieu, c'est là. Et il faut les éduquer.
Ouais.
Mais j'entends ce que tu dis, effectivement. Le plaisir féminin... De toute façon, on n'a pas le même... je sais plus avec qui je parlais de ça et tout, c'est que les femmes parfois elles oublient même qu'elles ont un vagin, tu vois ce que je veux dire. Nous les hommes on a un sexe qui pendouille,
un rappel,
permanent.
Ah, j'en parle sur scène.
C'est toi alors?
Ouais.
c'est lors de ton passage dans le 6e la dernière fois?
Ouais.
Ok, c'est pour ça alors.
Ouais.
Et ben tu vois, j'avais l'impression d'avoir une conversation avec quelqu'un tellement que j'étais en train de te regarder.
Ah cool.
T'écouter. Et ben, voilà.
Bah oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est différent, que c'est l'un des trucs les plus... Ouais. Mais que résultat, c'est plus intellectuel, plus... Mais bon, il faut que j'arrête de me plaindre, parce qu'ensuite, je reçois des messages sur Insta en mode...
C'est pas tu te plains. Non, mais c'est pas tu te plains, mais je pense que c'est pas le plaisir du sexe féminin. Le plaisir féminin... opposé au plaisir masculin, tu vois. Il faut deux personnes hein, pour se... sans rentrer dans les gays ou lesbiennes, tu vois. Là, je parle vraiment du plaisir. dans son intégralité. Après, tu peux le faire seul tout, mais quand tu es dans une relation avec une personne, c'est à deux, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est sûr.
Il
n'y
a pas un qui... Enfin, tu vois...
Ouais. Non, c'est sûr.
Il ne faut juste pas rentrer dans cette idée que c'est l'homme dominant ou...
Ouais.
Ou... C'est pour ça qu'après, il y a des catégories, tu vois. Femme dominatrice, homme dominateur, enfin, tu vois, des délires. Ouais. Mais le c'est à ça que... La conversation, elle a pris une tournure étrange.
Non, mais même, c'est...
Tu sais, les mecs, ils veulent avoir un avis sur tout. Non, mais...
mais ils connaissent ça. Et ça se trouve, on va se disputer, comme ton avis, avec la psychanalyse. Nous, on va se disputer avec le porno. Tu as de la merde. Tu vas partir du studio.
Pas du tout.
Non.
Je m'en fiche du porno. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas regardé de porno. Je pense que ça fait un moment que j'ai pas regardé un porno.
Non, mais enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est étonnant de se sentir à ce point. Après, je comprends que tu regardes du porno, tu te dis ah oui, bah, c'est vrai que tiens, c'est une activité. Enfin, tu te dis, ça peut te donner la. Si tu n'y penses pas, tu peux te dire ah tiens, ça peut te donner envie de le faire. Mais moi, je n'ai pas besoin de regarder du porno pour me masturber. Et c'est pour ça que je me. Et c'est surtout qu'en fait, les quelques vidéos sur lesquelles on est tombé, il n'y avait aucune histoire. Il y avait. Non, ouais, mais tu vois, c'était tout de suite. Mais la vidéo commence, elle est en train de le sucer. T'es là, genre, comme au début du podcast, genre, bonjour. Non, mais bonsoir. Enfin, tu vois, à la limite, moi, je suis sûre que. Et je suis, tu vois. Évidemment que je suis sensible, mais j'ai besoin qu'on me raconte des trucs. J'ai vu une série I May Destroy You, je sais pas si tu l'as vu sur OCS.
Non, mais j'en ai entendu parler. Ouais.
Incroyable. Et donc tu t'attaches au personnage principal de la meuf. À un moment, elle rencontre un gars. Désolée, si jamais vous n'avez pas encore vu I May Destroy You, peut-être arrêtez le podcast à ce moment-ci parce que je vais spoiler un mini truc, une mini scène, mais c'est qu'elle rencontre un gars. Le gars, évidemment, c'est un Italien. Dealer, un peu dangereux, qui fait du basket, qui est grand, qui est beau, qui est mystérieux. Et bref, il y a plusieurs choses. Puis ils finissent par... Ça prend du temps. Uh-huh. Déjà, c'est ça. En fait, tout simplement, c'est ça, je pense, pour les nanas. Uh-huh. Moi, il y a du temps qui
s'écoule.
C'est
une relation, quoi.
Où, bah, en tout cas, c'est une journée. Mais ce que je veux dire, c'est que... En tout cas, entre le moment où ils se rencontrent de machin à la toute fin... En gros, ils lui vendent la drogue. Elle fait sa journée. Le soir, elle sort avec sa pote, etc. Elles vont en boîte. Ensuite, en boîte, elles se perdent, sa pote part. Okay. Elle est toute seule, elle est défoncée, elle danse. Lui, il arrive, et au moment où on a peur pour elle, physiquement, on le voit et on voit qu'il la surveille et qu'il la regarde et qu'il va la protéger.
Nice.
C'est excitant. En tout cas, c'est peut-être que c'est un schéma de domination patriarcale, mais que j'ai intégré et qui fonctionne chez moi.
Ah.
Et résultat, ouais. Elle danse. Donc au moment où on s'inquiète pour la
protéger... C'est quand même lui qui lui a vendu la drogue au départ.
Ça, justement, c'est ça qui est complètement fucked up. Mais c'est ça qui est... Mais justement, ça fait la contradiction.
Okay, okay.
C'est pas un mec bien lisse dont on s'en fout, c'est un bad boy gentil. Okay. Le bad boy gentil.
Mais non, ouais.
Et résultat, il a...
Mais donc, si elle était chum...
Elle est... Ah non, ouais, il l'aurait
si
jamais
elle était chum, elle danse dans les caniveaux, il y a deux loulous qui... C'est quoi le...
Attends, elle est défoncée, elle danse, il la regarde. Ensuite, il se doute bien, elle est là, elle fait tomber ses clés, il la raccompagne chez elle. Donc on se dit, voilà, donc au moins elle est en sûreté. Ensuite, ils arrivent chez eux.
Ah ça y est, c'est chez eux.
C'est dans la maison qu'elle a louée en Italie et tout. Elle fait une résidence d'écriture, elle est écrivaine et tout. Et en gros, ils sont sur le canapé et tout d'un coup, en fait, il y a un réalisme de la soirée qui dure, qui est... Enfin, c'est souvent comme ça que
ça se passe. Ça filme la descente, ça filme...
Ouais, exactement. Et ils sont sur le canapé et lui ne fait rien. Il est assis, on sent qu'il a de la tendresse pour elle, mais qu'il ne va rien provoquer volontairement. Et c'est elle qui... On voit le moment où c'est quand même elle qui se met à avoir envie de lui... Et qui, un petit peu comme un chat, tu vois, se met
Gauthier.
Et il prend sa tête à elle, il la prend dans sa main. Et là, moi, oui, ça m'a excité. Je me suis dit, ok, j'ai compris. Genre, j'ai compris ce qui va se passer. Je trouve que c'est très bien foutu. Je trouve que et on y croit. Et c'est minimum ce genre de scénario que j'ai besoin pour que ça me, tu vois, que tu vois.
Non, mais là, oui, il faut que tu regardes des films. Ouais. Non mais je comprends. Le sexe à l'écran
il faut mais c'est dommage que... et j'ai l'impression que les hommes ont moins besoin de tous ces préliminaires scénaristiques non, pour arriver à l'excitation.
Je parlerai pas au nom de tous les hommes mais après si le but c'est de sortir du sopalin et de se masturber et de s'essuyer et puis de passer à autre chose je vais pas aller regarder je peux aller regarder une série.
Tu veux dire que c'est trop long, hein.
C'est pas que c'est trop long, mais c'est que voilà,
c'est dommage de
tu regardes sur les sites pornographiques, généralement les vidéos elles font pas plus de 2-3 minutes ou
ouais.
Tu vois, mais après c'est, je sais pas, mais
tu vois, c'est encore une différence parce que les hommes vous avez besoin de vous vider.
Ouais, il y a peut-être,
nous on a pas besoin de se vider.
Non, vous voulez vous remplir.
Ouais,
vous voulez vous nourrir.
Bah, on veut rien en fait, ça arrive un peu par hasard, tu vois.
Bah, nous on veut rien non plus.
Bah, c'est si aussi... vous avez besoin, c'est physiologique.
Ah
quoi.
Bon?
Bah, je sais pas, il y a un truc avec les couilles quoi. Le fait de...
C'est une émission de médecine la plus claquée de tout le.
Bah, je crois, tu vous sentez plus lourd quoi quand ça fait plusieurs jours que vous.
On dirait une personne bourrée qui m'arrête dans la rue en terrasse. Eh, les hommes, ils ont besoin de se bourrer, de se vider. Ouais, vous êtes avec une charmante demoiselle.
Alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si vous avez un mini sac à dos que vous devez alléger. C'est pas. Ouais.
Mais je comprends, en tout cas, je suis pas indifférent à une bonne série, bien écrite, bien pensée, avec une femme qui vient vivre. Mais bon, c'est entendu.
Ouais.
Elle part en Italie,
ouais.
La Dolce Vita,
oui, c'est ça pour moi,
le danger.
Ouais.
Et puis en fait, c'est du danger un peu bienveillant, ouais. Maîtrisé. Ça va, c'est bon.
Bah ouais, bah c'est ça marche.
Ouais, ouais. Oui, ça marche.
Bon, attends, je finis. Tout ça, c'était pour pouvoir quand même faire genre, je suis quand même pas totalement insensible. Ton repas préféré?
La soupe de lentilles.
Ta boisson préférée?
L'eau.
Genre.
L'eau.
Ok.
L'eau. Même quand tu dis l'eau, en fait, en vrai.
Tes prénoms préférés?
Ça, c'est quoi? J'ai eu un délire sur des prénoms là dernièrement. Ulrich, c'est un truc dans les Monoprix ou Franprix, ils font une marque qui s'appelle Ulrich de Varence. Ils vendent un faux parfum. Ça me fait tellement rire, je trouve ça tellement absurde. Ulrich de Varence. Jacquemart, j'aime bien aussi Jacquemart. C'est drôle, Jacquemart.
C'est drôle.
Jacquemart,
c'est horrible.
Horrible.
C'est la pire chose que tu puisses faire à un enfant.
Barnabé aussi, j'aime bien.
Barnabé, c'est vraiment très Bernard Lherbint.
Gwendoline, j'aime bien.
Oh non, tu sais pas, c'est une blague.
Gwendoline, je trouve que c'est beau.
Ah non, Gwendoline, c'est Sephora de Issy les Moulineaux.
C'est breton.
Ah ouais, mais Gwendoline, moi pardon, c'est une actrice amateur de porno, quoi.
Ah, c'est beau, Gwendoline.
Oh merde.
Non,
on a pas, si on a des enfants ensemble, je te préviens, Redouane, genre notre fille ne s'appellera pas Gwendoline.
Entendu. Et puis, pardon d'avance à toutes les personnes qui s'appellent Gwendoline, qui écouteront donc ce podcast.
Pardon à toutes les Gwendolines. Ce que tu détestes par-dessus tout?
La méchanceté.
Un don, un talent que tu aimerais avoir?
Dessiner, savoir dessiner.
Comment aimerais-tu mourir?
De vieillesse.
Ton état d'esprit actuel?
C'est chaud ce qui se passe en ce moment, mais il faut se battre, il faut rien lâcher. Et puis il faut se serrer les coudes mutuellement, s'unir, être bienveillant avec les uns les autres. Envers les uns les autres. Ça se dit? Ouais.
Ouais. Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence?
Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence. Les fautes contre soi-même.
Est-ce que tu as une devise favorite?
C'est la devise de ma ville, de Metz. Celui qui fait la paix dedans a la paix dehors.
Merci Redouane. C'est beau, celui qui fait dedans la paix dedans. La meuf fait la paix dedans. Oh putain, ça je comprends parce que la meuf qui nique. Non, t'inquiète, on a une très bonne fin de podcast. Super, merci beaucoup.
T'es fou, c'est un plaisir, merci.
Alors à la toute fin, hein, quand Redouane dit la paix dedans, la paix dehors, j'ai hésité à faire une blague de paix et de cul sur le dedans et le dehors, d'où ma gêne, et d'ailleurs j'ai ajouté la petite musique du jingle dessus. Mais est-ce que cet épisode vous a plu? Un peu dark au début, puis plus léger, quoi, c'est drôle la fin sur le porno, non? D'ailleurs l'ami dont je parle, c'est Camille Laurent, et il faut s'abonner à sa chaîne YouTube Queen Camille.
En tout cas, j'espère que Redouane développera hein, les blagues sur les commentaires sous les vidéos porno, parce que vraiment, ça, c'est hilarant, je trouve, la façon dont il en parle. Et moi, franchement, je tiens aussi absolument à m'approprier et à développer la trouvaille des lapins qui n'ont pas de moves. Vous voyez, vous vous souvenez ce moment, les lapins qui varient pas les rythmes. Est-ce que c'est pas ça qui nous distingue des animaux? Tenter une position, dire ça va, ça te plaît. Est-ce que la baise douce n'est pas le fondement de l'humanité?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast « @lesmecsquejeveuxken » sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.